matin.
Marceau, what do you want to be?
Marceau le matin.
Vendredi, c'est toujours relax sur la route. Si vous voyez quoi que ce soit, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est par texto si c'est possible de le faire. 88-971-101 Max.
C'est ça roule, tout est beau.
Ça roule à Monaco. T'as-tu pris ton changement de pneus? T'as rendez-vous pour le changement de pneus, Max?
Oui.
Excuse-moi. Jeff, ton rendez-vous est-tu pris?
Tu viens de me faire penser d'appeler.
Moi, c'est dans deux
semaines.
Ah
ouais?
Ouais, moi, c'est
j'ai
semaines.
Complètement oublié.
C'est vendredi dans deux semaines.
Ça va aller à quand, toi?
C'est, ça va aller trop tard.
Mais j'ai peur d'user mes pneus. Là. Ils m'ont coûté,
oui.
C'est quand même assez cher, mes pneus d'hiver. Là. Puis là, j'ai peur des user. Quand ça va monter au-dessus de 15 tout le temps.
C'est
là,
ça, là.
C'est un peu stressant.
Ouais, là, Jeff, par exemple, toi...
Non, je l'échappe un
seul. Ta blonde sera pas contente.
Il y a un minivan. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il peut rouler avec des pneus d'été à l'année longue. Là. Il roule à 30 km/h, le tour.
Ouais, c'est ça. Entre un show d'humour puis une préparation de Big Muff acoustique à 5, j'ai oublié d'appeler.
Oui, c'est ça. Donc, c'est le temps de le faire. Moi, c'est dans deux semaines. Je trouve ça vraiment loin.
Ben, c'est ça.
Mais ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment dans le jus. Puis là, j'ai dit, je connais Max Larouche. Pourriez-vous m'aider, vu le fait que je parle, que je connais Max Larouche? Puis ils m'ont dit non.
Ça n'a pas marché?
Depuis qu'il chante ses chansons, il n'y a plus de passe droite ici.
Ouais, ben mon garagiste, c'est un bon ami de Val, fait que peut-être qu'il va être...
Peut-être
qu'il va me passer deux rendez-vous.
Pourquoi tu t'achètes pas une trottinette, hein?
Pourquoi je m'achèterais une trottinette?
Mais tu sauverais du temps, là? Mettons, tu sauverais quasiment une demi-heure chaque matin.
Ben j'ai un vélo, puis je le prends pas parce que justement, je l'aime ma petite marche du matin. Avant, je venais en vélo l'été.
Ça le réveille.
J'aime ça, ma marche du matin en écoutant ma musique. Ouais. Puis en plus, à cette heure, là, j'ai commencé à chasser des Pokémon.
Pardon?
T'as-tu commencé à chasser des Pokémon pour vrai?
Oh, je suis encore allé trop loin. Matin, ça fait deux fois. Je pense que c'est pire que la première. Ouais, parce qu'au Saguenay, en fin de semaine, mon ami Émile, il m'a dit « Hey, on s'en va avec ma blonde, on s'en va chasser des Pokémon au Vieux-Port, viens-tu? »
Des Pokémon.
Je me suis mis l'application Pokémon Go. Dans le tâche, j'étais tout un dresseur de Pokémon, moi, là.
T'étais un dresseur de Pokémon.
À Jonquière, là, quand j'étudiais là-bas, moi et mes colocs, là, on était des bons dresseurs, là. On sortait souvent, on allait chasser des Pokémon.
Fait que là, toi, t'es seul à 3h du matin.
Oui.
Tu pars de chez vous dans le secteur de Charlebourg pour t'en venir dans le secteur de Le Bourgneuf.
Oui.
Puis tu chasses des Pokémon à 25 ans.
Ouais, mais là, c'est, l'âge n'a pas rapport là-dedans, là.
Ouais,
il
n'y
a pas d'âge pour être heureux.
Tu sais que j'ai déjà travaillé pour Desjardins, puis on était en manque de personnel. Puis là, la directrice, qui s'écoutait beaucoup par là, je le cacherai pas, je lui ai dit, de toute façon, que ça me donne le choix de le dire sur les ondes, là, c'est la pire patronne que j'ai eue de ma vie. Elle arrive à un moment donné dans une réunion, puis elle dit, j'ai eu une bonne idée. Fait que là... On fait comme d'habitude, on l'écoute. Et là, elle dit, pour trouver du personnel, on va embarquer dans la chasse aux Pokémon. Fait qu'on va s'organiser pour qu'il y ait des Pokémon qui se retrouvent en avant de notre bureau, puis comme ça, on va pouvoir en recruter. J'ai levé la main, j'ai dit, si tu veux vraiment avoir des mauvais employés, vas-y avec toi.
Ben voyons donc, je suis un employé modèle, puis je chasse des Pokémon. Mais, c'est quoi ce préjugé-là?
Ben moi, j'ai un préjugé à l'égard des gens de 25, 30, 40, 50 ans qui chassent les Pokémon tout seuls. C'est des débiles légers, là.
Ben là, je débile léger, enlève une bûche, là, je pars de chez nous, puis j'écoute ma musique, puis tant qu'à y être, je chasse des Pokémon, en fait, puis...
Tu vas-tu l'écrire sur ta fiche Tinder que tu chasses des Pokémon?
La réponse, c'est non.
Pourquoi tu l'écriras pas, Max, que tu chasses des
Pokémon?
Je peux
aller l'écrire drette là, je m'en fous. Je m'en aller changer, on chante au karaoké pour viens chasser des Pokémon, là.
Ah, peut-être ça pognerait plus les Pokémon que le... Hey, imagine si les Pokémon pognent plus que le karaoké.
Je le fais drette là.
Ouais.
Ah, c'est pas vrai, je parle même plus de karaoké, là. J'ai dit que j'avais une piscine.
T'as pas de piscine?
Ben oui, j'ai une piscine.
Au condo, tu l'es jamais?
Je dis, ma bio, j'ai une piscine puis l'air clim.
Toi,
fait
là,
même, je les attire.
T'es le profil type du gars de 55-60 ans qui, à un moment donné, quand sa vie va être trop plate, là, il va s'acheter un bateau puis il va inviter les filles sur son bateau l'été en pensant que ça va pouvoir peut-être fonctionner.
Tiens, check, j'ai changé ma bio Tinder. On va chasser des Pokémon?
On va chasser des Pokémon.
Oh my
fait que
God!
Là, on fait... OK. Là, c'est quoi ça? Comment ça marche?
Ah non, donne-moi ça.
Comment ça qu'il y a deux?
Marceau.
C'est pourquoi, Jeff, il y en a deux sur une?
Hein?
Non, c'est pas la... Oui, mais c'est parce qu'elle doit être avec son ami, là.
Max veut un trip à trois.
Ah, mais elle, on s'est pas liké encore, là. Es-tu belle?
Like, je sais pas, je vais swiper ça. C'est à droite, hein?
Si tu veux liker, ouais. Je sais pas, mais like,
c'est
là.
Celle qui a le petit cœur.
On t'en du haut.
Elle a de l'air.
Non, là, arrête, là. Ouais. Marceau. Non, Marceau. Donne-moi ouais. ça. Non, là, t'es like tout. Non, Marceau. Hey, là, je vais avoir un ménage à faire.
Comment ça, il y a des gars sur ton application?
Non.
Je suis pas à droite pareil.
Il y a des gars, mais le pire, c'est qu'il y a des gars qui font ça, hein, qui s'affichent comme des filles en se disant, hein? Même les, mettons, les gars qui veulent pas mettre qui aiment les filles, mettons qu'il y en a un qui me pogne puis qui se dit, hey, je pourrais.
Donc.
Ouais, fait que des fois, il y a des gars qui disent qu'ils sont des filles, mais qu'ils ne sont pas pour vrai. Là. J'ai pas de problème pour les gars qui les trans. Là,
j'ai swipé tout ce qui est. T'aurais pas de problème avec un trans?
Non, ça, attends, wow, là, t'as manqué un bout de conversation, là. Là, t'as vraiment manqué un bout. Là.
Cette curiosité-là?
Non, t'as manqué un bout.
Mais c'est
ce
correct,
que j'ai dit, non.
Je te juge pas
là-dessus. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas de problème avec eux, le fait qu'ils existent.
OK, mais est-ce que tu swipes à gauche ou à droite si tu le croises?
Ben, des fois, tu le sais pas, là. Des fois, tu le vois après, là. Pis là, t'as tout liké pour vrai, là.
Oui,
là, même plus liker.
Non, il reste plus personne dans ton entourage à liker, là.
Non, j'ai fait le tour de... Puis le rayon, là, c'est genre 180 km.
Ah, c'est quand même un bon rayon.
Là, 161.
S'il y a un Philippe qui dit « Allô », là, c'est moi qui le swipe à droite pour
bon.
Toi.
Bon, ben, je vais l'unmatcher, là. Je suis désolé. Mais...
Philippe?
Hey, Philippe, ou n'importe quelle personne qui n'est pas de mon goût, là. Je vais devoir m'excuser. Puis là, tu vas leur faire de la peine.
Non, chasser des Pokémon, c'est pas très vendeur, Max. Je veux juste te le dire, là.
On va chasser des Pokémon. Ouais. Hey, on il est juste 6h34.
Moi, je vis ma best life avec ce gars-là.
Moi, je tripe bien, Ren. Notre 6 à 7 est toujours le fun.
Oui, les boss écoutent pas.
On jase entre nous, puis Max nous apprend plein de choses. Comme des fois, une ou deux fois, et là, il chasse des Pokémon.
Ouais, bon.
Ah.
Merci, Max, d'exister.
Oui, oui c'est, pour de vrai, là, on passe des meilleurs matins grâce à Max.
Exact. 6h34, parlant de Max, on veut les manchettes.
Les news 102.1.
Max, en ce 1er mai 2026, tu nous apprends quoi ce matin?
Ben hier, on a continué de suivre l'enquête publique sur la mort de la petite Maëline Luger, 13 ans, du côté de Lévis. Là, ce qu'on a dit, entre autres, là, c'est que les recherches pour la retrouver auraient dû se poursuivre durant la nuit de sa disparition. Puis ça, c'est selon un lieutenant de la Sûreté du Québec, Jean-François Villemur, qui a affirmé que dans un dossier comme ça, qui implique une adolescente vulnérable, ben fallait continuer les recherches, fallait mobiliser plus de ressources. Pour lui, ben des disparitions de ce genre-là, ça doit être traité comme des situations critiques. A souligné d'ailleurs qu'il est possible de mener des recherches nocturnes, même si oui, ça peut être moins efficace. Et aussi a dit que des maîtres chiens, ben ça peut être utilisé en tout temps, parce que ça, c'est ce qui avait été mentionné un peu plus tôt, que la mère s'était fait dire « Ah ouais, mais là, la nuit, ouais, non, ah, mais là, les chiens, la nuit, ça marche pas. » Et là, lui dit « Ouais, ben ça peut être moins efficace, mais tu sais, ça okay. se fait. »
Explique-moi le dossier, là. On parle d'une jeune fille de 13 ans qui était disparue dans le secteur de Lévis, oui. qu'on recherchait. Elle mentionnait que c'était une jeune fille qui était suicidaire.
Mais ça, les infos,
avait des pensées noires.
Les infos ont été mal transférées. Il y a ça aussi dans le dossier, c'est que il y a eu des problèmes de communication là, qui font que c'est pas tout le monde qui avait pris connaissance du fait que le matin même, elle avait écrit à une amie qu'elle était sur le bord de passer à l'ac. Okay. Pis...
Là, on l'a retrouvée dans un boisé.
Ouais, le Parfait. Lendemain.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est morte de froid? Comment ça?
Ben, ce qui est arrivé, puis là, c'est comme une deuxième... On essaie d'en arriver à un deuxième constat parce qu'il y avait eu une première enquête puis un premier rapport qui nous disait que c'était une noyade accidentelle.
Ouais.
Mais je veux dire, c'est pas le fleuve Saint-Laurent qui passait c'était un petit ruisseau, là.
C'est ça.
La noyade accidentelle, tu dis comment ça a pu arriver. Puis ça, c'est le père qui est sorti par la suite d'un média en disant « Hey, ce rapport-là, c'est parce que noyade accidentelle, ça fait pas de sens avec toutes les autres informations qu'on a. »
En même temps, c'est une coroner qui s'est penchée là-dessus. Je veux dire,
mais elle il manquait des informations. Elle avait pas reçu nécessairement les infos par rapport aux propos suicidaires. Il manquait des informations. Fait que c'est pas qu'elle a mal fait sa job, c'est qu'il y en a qui ont pas fait la job d'y donner toutes les informations.
Je comprends tout ça, mais si on parle d'une noyade, là, dans un ruisseau, elle peut pas dire que c'est une noyade dans un ruisseau si ça ne l'est pas.
Elle l'affirmait pas à 100%. Mais on en est arrivé à la conclusion que c'était ça le plus probable.
OK. Je pensais que c'était plus clair que ça quand ils faisaient leur rapport.
Pas dans ce cas-ci. C'est pour ça que les parents ont continué, surtout le père de la jeune fille, ont continué leur démarche pour avoir une nouvelle enquête publique avec un coroner d'expérience. Luc Malouin, c'est lui qui a fait l'enquête pour les deux petites carpentiers à l'époque parce qu'ils étaient complètement en désaccord avec la conclusion de la première coronaire. Puis là, tu sais, quand on parle du périmètre aussi, où on a fait des recherches, on parlait d'un périmètre urbain, qu'on n'a pas entré le boisé dans le périmètre. Mais si vous avez la chance d'aller voir la photo dans le Journal de Québec, où on voit justement la fille passer dans le stationnement de l'école avec les caméras de l'école, bien, t'en remarques que le boisé est juste l'autre côté de la clôture. Mm-hmm. Fait que comment ça qu'on ne l'a pas inclus dans ce périmètre-là? C'est aussi la grande question. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a traité comme une fugue normale au lieu d'une petite fille qui avait des pensées suicidaires. C'est là la grosse problématique présentement qui ressort de cette enquête-là. On verra avec les conclusions du coroner, mais présentement, c'est ça vraiment la problématique.
Conclusion de l'enquête?
Oui, conclusion de l'enquête du coroner, je m'excuse.
J'ai sourcillé en voyant cette nouvelle-là ce matin dans le journal. Une quarantaine de patients qui devront subir des tests de dépistage du VIH et des hépatites en raison d'un tournevis mal désinfecté au CHU de Québec.
Capoté cette histoire-là, Jeff. Écoute ça.
Le CHU qui a confirmé au journal que l'instrument était désinfecté de façon inadéquate depuis 2017.
C'est un tournevis et à tous les jours, il avait le tournevis. Chaque fois que le tournevis était utilisé, il l'avait. Puis à un moment donné, il y a un technicien qui s'est rendu compte
ça se démonte.
Le bout de métal et le bout où tu mets ta main, là, tu pouvais le dévisser. Puis cette vis-là n'avait jamais été nettoyée. Là, les dangers de contamination sont minimes, mais ils existent. Ce qui fait en sorte qu'il faut que tu rappelles tout le monde qui a été opéré avec ce dit tournevis-là.
La bonne nouvelle, c'est que c'est pas tant de monde. On dit que c'est un tournevis qui était rarement utilisé. Tu sais, je vous l'ai dit, c'est quarantaine de patients. Fait que c'est 40 de trop, là.
Tu viens que ça stresse-là quand même.
C'est 40 personnes stressées.
Ce que Jean-Thomas Grantham, porte-parole du CHU de Québec, a expliqué, c'est que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça se dévisse, puis le personnel médical avait pas été informé de la procédure à suivre, fait qu'on désinfectait l'instrument sans le démonter. On a contacté toutes les personnes concernées. Là. On a ça fiché. Vous n'avez pas à vous inquiéter en ce moment si vous avez pas déjà été contacté que hey, moi, mon opération au CHU, ça a-tu peut-être été problématique. Les personnes ont été contactées. Le CHU qui exige les tests par principe de précaution, le risque de contamination qui est jugé faible, mais comme tu l'as dit, qui existe. Une exposition liée à l'Église de Scientologie qui se tient cette semaine dans le hall du campus de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, à Québec, crée un malaise. On parle de l'exposition « Psychiatrie, la vérité sur ses abus », présentée par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, une organisation qui a été cofondée par l'Église de Scientologie, nous apprend le Soleil, pour Denis Simard, coordonnateur canadien des programmes sociaux de l'Église de Scientologie. Ça vise simplement cette exposition à présenter des faits sur les abus de psychiatrie et n'a aucune connotation religieuse. L'ENAP a réagi mercredi en envoyant une note à la communauté de son campus de Québec, mentionnant notamment que l'ENAP n'appuie aucunement les positions véhiculées par l'organisme locataire et s'en dissocie expressément. Questionné par Le Soleil sur les raisons qui l'ont convaincu d'accueillir l'expo, l'ENAP n'a pas commenté, mais une source qui a dit au Soleil « Ouais, ce qui est arrivé, c'est que la location s'est faite au nom de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. » Fait que ça a un peu induit en erreur l'établissement, fait qu'on a accepté sans nécessairement, visiblement, faire le lien avec l'Église de Scientologie.
Ce qu'on comprend, c'est qu'au Québec, c'est encore considéré comme étant une religion, l'Église de la Scientologie, mais ailleurs dans le monde, entre autres en France, c'est considéré comme une secte. C'est sectaire. Fait que c'est sûr et certain que moi aussi, j'ai un petit malaise là, à ce qu'on présente ce genre d'événement-là à cet endroit-là. Ils ont leur propre place. Là. C'est carrément à côté de chez nous, là, l'Église de la Scientologie. Je me demande comment ils font pour faire autant d'argent. Là. Sérieux, si tu as vu leurs locaux, là, c'est de toute beauté. Ça doit coûter une petite fortune du pied carré. Ils vendent des livres, mais en bout de ligne, je ne sais pas d'où vient l'argent. C'est l'argent des gens qui pratiquent cette religion-là?
J'imagine. Est-ce que c'est le fait qu'à l'intérieur de l'Église de Scientologie, puis là, je vais prendre l'exemple très connu de Tom Cruise, là, qu'il y a des grands donateurs comme ça, puis qu'après ça, c'est redistribué à travers l'Église partout sur la planète. Donc, est-ce que c'est ce fait-là? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'informations à cet effet-là.
La Ville de Québec annoncera aujourd'hui un investissement de 6 millions de dollars pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de sécurité routière. Radio-Canada précise qu'une somme de 2,88 millions sera notamment consacrée à des projets de corridors scolaires, les travaux qui incluent la construction de trottoirs, l'aménagement d'intersections surélevées et la sécurisation de passages pour individus. Un montant de 822 000 dollars est aussi prévu pour la bonification des aménagements pour la sécurité routière, qui inclut aussi l'installation de 131 seuils de ralentissement. C'est comme des genres de do-down, là, mais plus large. Toujours selon Radcan, l'installation de 11 nouvelles zones pour personnes aînées est aussi prévue au coût de 100 000 $. Le gouvernement de Mark Carney, qui n'a pas tardé à utiliser sa récente majorité en comité à Ottawa pour bloquer les tentatives des partis d'opposition d'en savoir plus sur les dépassements de coûts du logiciel QRAM. Le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada qui ont rapidement déploré la situation parce que ben, essayent depuis un bon moment d'obtenir plus d'informations. Puis là, il y avait un certain blocage du côté des libéraux qui repoussaient. Puis on se demande, ouais, ils repoussaient-tu en attendant d'avoir leur majorité qui leur a permis finalement de dire, ouais, non, vous les aurez pas, les documents puis les informations. La presse, d'ailleurs, note que mardi, au comité de la santé, les libéraux ont aussi profité de leur majorité pour mettre fin au débat public visant à charger la vérificatrice générale d'enquêter sur un programme de 300 millions. Rappelons que la facture du système QRAM est passée de 1,75 milliard en 2017 à 6,6 milliards. Et ça n'inclut pas les coûts d'exploitation après 2031. Tu sais, quand on parlait plus tôt cette semaine des libéraux qui allaient chercher une majorité en comité, là, puis pour certains, ça voulait pas dire grand-chose dans le concret, ben là, on voit clairement ce que ça fait. Ça permet aux libéraux de pas donner certaines informations aux oppositions. D'ailleurs, un an après son élection, la popularité de Mark Carney qui recule, même si au niveau des intentions de vote, il reste très fort. Là. C'est l'actualité qui note que la plus récente mise à jour du sondage en continu de Nanos Research semble montrer que la cote de popularité du premier ministre aurait atteint un pic début mars avant de reculer un peu. La mise à jour du 27 février, dont les dates de terrain s'étiraient du 6 au 27, montrait que Carney était le choix comme meilleur premier ministre de 56 % des répondants contre 22 pour Pierre Poilievre. Et deux mois plus tard, la cote de popularité de Carney a baissé de 6 points quand même pour atteindre 50 %, alors que celle de Pierre Poilievre a grimpé de 4 points vers 26 %. L'actualité rapporte au passage que selon un nouveau sondage Angus Reid, 51 % des Canadiens ont confiance que M. Carney en arrive à un accord avec les États-Unis, alors que 42 % sont peu ou pas confiants.
L'endroit au Canada où on est le moins confiant, Jeff, c'est en Alberta.
Mm-hmm.
L'endroit au Canada où on est le plus confiant, c'est en Ontario, derrière le Manitoba, puis le Québec.
Ouais, exactement. T'as les provinces de l'Atlantique aussi là, qui sont à 61%, là, qui sont élevées. On les met tous ensemble là, dans le même panier.
Intéressant. Près de la moitié des pessimistes montrent Donald Trump du doigt. Donc au Québec, 50% des gens pensent que c'est Donald Trump le problème.
Oui, en effet, 50% des gens ont confiance en Mark Carney. Il y a 10% là, qui préfèrent ne pas se prononcer, autrement dit, qui n'ont pas d'idée à cet effet-là.
Parfait. Au sport! Les sports! Sports! Dans quelques heures commence le match. Est-ce que c'est le match ultime ce soir? Il y en a qui pensent que ça se termine ce soir. Il y en a d'autres qui pensent que ça se termine dimanche. Moi et Jeff, ainsi que Max, on pense que ça se termine ce soir. 418-971-1021, si vous avez une autre opinion. Puis dites-nous pourquoi ça pourrait être dimanche le match ultime. 3-2, moi et Jeff, c'est ce qu'on dit, 3-2
ouais,
Canadiens.
C'est une série de 3-2.
Pour ce qui est de Max, tu nous avais dit quoi?
4-3 Canadiens.
4-3 Canadiens, donc t'es quand même assez positif sur le nombre de buts que Tampa Bay pourrait aligner contre Dobesh. Il va faire quoi, Martin Saint-Louis? C'est la même recette que le dernier match. On va jouer avec les trios. Anderson va aller faire un tour sur le premier trio. Cole Caulfield va jouer le moins possible.
Ben encore là, je pense que ça va dépendre des circonstances. Mais c'est sûr que si le Canadien va chercher les devants à un certain point dans le match, ben en effet, ça se peut qu'on voit beaucoup moins Cole Caulfield puis qu'on voit justement, comme au dernier match, un Philippe Dano avoir des grosses minutes en troisième période puis des Jake Evans. Puis le Canadien a ces gars-là dans l'alignement qui sont bons pour protéger les avances. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, un Cole Caulfield a moins son utilité. Puis là, particulièrement dans un contexte où il score pas. Fait qu'il sert absolument rien dans cette série-là à date, Cole Caulfield. Espérons qu'il nous fasse mentir ce soir avec, pourquoi pas, peut-être le but gagnant à suivre. Est-ce que Noah Dobson pourrait entrer dans l'alignement. T'sais, nous, on ne sait pas il est dans quel état. Là. Moi, ce que je dis, c'est s'il n'est pas en état de faire une passe que de l'allure, j'ose croire qu'on aura l'intelligence de ne pas le rentrer dans le line-up. Mais si tu me dis que Noah Dobson, non, il est prêt à prendre des grosses minutes. Ah ouais, dans l'alignement, là, tu ne te prives pas d'un défenseur comme ça, mais ça dépend de son état. Puis les seuls qui connaissent l'état de Noah Dobson, ben, ils sont au sein de l'alignement du, ben, en fait, de l'organisation du Canadien.
Là. Jeff, j'ai l'impression que si c'était un match 7 qui avait lieu ce soir, Dobson et sa glace.
Je pense que oui. Remarque, je pense que oui. Puis Colin, j'ai encore aimé le duo Jack Trouble dans le dernier match. Ils ont fait un très, très bon travail.
C'est pour ça que moi, si Dobson rentre ce soir, je joue à 11 attaquants, 7 défenseurs.
Ouais, je l'aime, cette théorie-là.
Là, la difficulté, par exemple, c'est que si tu fais ça, celui que tu n'as pas le choix de sortir, c'est Gallagher.
Ouais, puis Gallagher t'a donné 8 grosses minutes. Fait donc, ouais, c'est ça, c'est ton fait.
Je pense qu'il n'y aura pas de mouvement ce soir.
Autre chose?
Oui, ben c'est terminé pour les Oilers d'Edmonton et les Stars Dallas. Les Ducks et le Wild qui accèdent au deuxième tour. En plus du Canadien, les Sabres et les Golden Knights qui vont tenter aussi d'en terminer avec leur adversaire ce soir. Et fait particulier, là, ça se peut qu'on aille de 2 à 3. Peut-être qu'on n'aura pas non plus, mais tu sais, ça se peut qu'on aille des septièmes matchs dimanche. Mais la deuxième ronde des séries va quand même commencer demain entre les Flyers de Philadelphie et les Hurricanes de la Caroline, parce que sinon, on n'aurait pas eu de match samedi. Fait que, rendu là, pourquoi pas. Dans la NBA, les Raptors vont tenter ce soir, 19h30, à Toronto, de forcer un match numéro 7 face aux Cavaliers de Cleveland. Et dans la MLB, dur début de série pour les Blue Jays face aux Twins du Minnesota, avec une défaite de 7-1. Deuxième match de la série ce soir, 20h10.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,